Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être toujours fidèle à Métropole et vous et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission. L'actuelle majorité de Toulouse Métropole a basculé au cours de l'année 2017 dans la seconde moitié de son mandat, celui-ci courant jusqu'en mars 2020. La mi-mandat et le début 2018 sont donc l'occasion de faire un bilan des actions menées depuis 2014-2015. Qu'a-t-il été réalisé? Que reste-t-il à faire? Quels projets sont en cours? Certains ont-ils été différés? Parmi les principales actions lancées depuis 3 ans, il y a toutes celles qui concernent ce qu'on appelle la politique de la ville, et plus précisément le contrat de ville, des concepts dont vous avez sans doute entendu parler sans savoir toujours ce qu'ils recouvrent, ni s'ils ont un effet direct sur votre vie et votre environnement quotidien. De bonnes raisons d'y consacrer un numéro de Métropole et vous et de faire le point sur leur contenu et leur réalisation. Toute cette émission est donc dédiée au contrat de ville 2015-2020 de Toulouse Métropole et à son bilan à mi-mandat. Pour évoquer le vaste sujet et le grand champ d'action du contrat de ville de Toulouse Métropole, il fallait un élu métropolitain qui connaisse bien la question. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un des mieux placés pour en parler, en la personne de Franck Biasotto, adjoint au maire de Toulouse, délégué entre autres au logement, maire de quartier, notamment du Grand Mirail, président de la commission Habitat de Toulouse Métropole. Et puisque ces domaines vont être souvent évoqués lors de notre échange, je me demandais justement ce qui vous a amené à prendre en charge les secteurs du logement et de l'habitat. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec votre formation et votre carrière professionnelle?
Bon, vous avez été très complet, je vais me permettre de vous remercier de votre invitation. Oui, bien sûr, il y a un lien direct avec mon activité professionnelle et ce qui m'a permis, je pense, d'aborder de manière plus à l'aise la délégation qui est la mienne aujourd'hui et de pouvoir être très vite opérationnel dans des quartiers comme le Grand Mirail où il faut l'être, je crois, et on attend du résultat visible, en tout cas pour les habitants.
Alors, quelle était cette carrière professionnelle qui est sans doute toujours en cours parce que vous êtes un jeune élu?
Oui, je ne sais pas, tout est relatif, mais je dirais tout d'abord de formation juridique, ensuite bien évidemment je suis rentré dans le monde de la gestion patrimoniale, le logement et tout ce qui tourne autour de la personne, les contrats vie, les contrats de la mort également, ça fait partie de la vie. Voilà, et puis j'ai rencontré monsieur Modinck, maire président aujourd'hui, il y a une dizaine d'années. Moi j'étais dans le monde associatif, notamment avec la catastrophe d'AZF sur Toulouse, et il m'a repéré, je crois, comme cela.
Voilà, oui, j'avais noté qu'effectivement, vous avez fait partie de cette association-là qui soutenait les victimes de la catastrophe AZF. Très impliqué, vous étiez vice-président ou...
C'est exact, vice-président d'un comité des victimes d'AZF. Il s'agissait tout simplement, de par ma formation de base juridique, de les aider face à Total dans les bonnes démarches et de contractualiser intelligemment avec les contrats d'assurance. Tout ce qui est dommages, dommages collatéraux, dommages de biens et dommages de personnes, c'était ma formation première. Donc, il était naturel que je la mette au profit et au service des habitants.
Voilà qui nous permet d'en savoir un peu plus sur vous, avant d'en savoir plus sur le contrat de ville dont nous allons parler dans quelques minutes. Avant cela, place à l'actualité métropolitaine, avec Corinne Saint-Félix et son traditionnel flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Ce flash commence avec une incursion dans une des plus petites communes de la métropole toulousaine, inauguration des nouveaux aménagements de l'avenue des Pyrénées de la commune de Mons.
Effectivement, réaménageant l'avenue des Pyrénées, ex-route départementale transférée à la métropole en 2017, il s'agissait de contribuer à l'amélioration des déplacements et du cadre de vie dans le centre-bourg de Mons, en soulageant le trafic, en aménageant des trottoirs avec création de places de stationnement pour les riverains. Toulouse Métropole a financé les études, les travaux sur les réseaux d'eau usée et pluviale, les trottoirs et les ralentisseurs. Le SDEAG, le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, a porté et réalisé la mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques et a mis en place des candélabres d'éclairage public en lien avec la commune de Mons. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a réalisé et financé la couche de roulement. Bref, du travail d'équipe, montant des travaux, 1 165 000 euros financés à 70% par Toulouse Métropole, 25% par la SDEAG et la mairie de Mons et 3,4% par le conseil départemental de la Haute-Garonne.
Maintenant, un événement attendu depuis quelque temps dans le milieu culturel, la compagnie La Machine s'installe définitivement à Montaudran.
Elle fait partie d'un grand projet urbain dénommé Toulouse Aérospace à Montaudran, berceau historique de l'aéronautique. Objectif, faire ressurgir le passé héroïque de Toulouse et son écosystème industriel exceptionnel. Ce projet doit réunir tous les acteurs publics et privés de la filière aéronautique, de la formation à la recherche et à l'industrie sur un même site, pour devenir ainsi le quartier européen de l'innovation. Sur 56 hectares, ce quartier émergent accueillera également activités tertiaires, logements, commerces et services, équipements publics et espaces naturels autour de l'ancienne piste de l'aéropostale. Le projet de la compagnie La Machine, qui met le mouvement au cœur de sa démarche artistique, permettra à la fois d'apporter une dimension créative et onirique et de proposer un nouveau regard sur ce quartier, regroupant les fonctions de création, d'exposition et de manipulation des machines originales. Cet équipement est totalement intégré aux projets urbains et aux espaces publics environnants.
Du cérébral, pour conclure ce bulletin d'information, la semaine du cerveau, manifestation internationale organisée dans plus de 100 pays et plus de 30 villes en France, veut sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau.
Et elle se déroule toute cette semaine. De nombreuses conférences et événements ont lieu sur la métropole toulousaine, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est l'occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d'en présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société. Vous pouvez donc cette semaine rencontrer des chercheurs, apprendre à mieux connaître le cerveau et vous informer sur l'actualité de la recherche en lien avec l'exposition Humain demain au Quai des Savoirs.
Le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Franck Gazzotto, je pense que vous voudrez peut-être réagir à certaines des informations de ce flash qui intéressent forcément l'élu métropolitain que vous êtes. Je pense notamment à l'installation de la machine dans ce nouveau quartier, ce grand projet urbain qu'on appelle Toulouse Aérospace à Montaudran.
Comme vous dites, effectivement, c'est un enjeu important pour notre métropole et pour le rayonnement, je dirais même européen, national, de Toulouse et notamment Aérospace, Aérospace Valley, avec effectivement cette piste des géants. Et bien évidemment, comme tout nouveau quartier, il faut qu'il y ait une bonne mixité entre les activités, l'attractivité, une mixité entre la culture, l'habitat, vous l'évoquiez dans le reportage, et bien évidemment tous les services qui doivent être présents dans un nouveau quartier émergent. C'est un bel enjeu et c'est un bel avenir pour toute cette partie toulousaine.
Voilà, alors après ce commentaire de l'actualité métropolitaine récente qui va nous amener à notre sujet du jour, ben nous y revenons. Je rappelle que cette émission est consacrée aujourd'hui au contrat de ville 2015-2020 de Toulouse Métropole et à son bilan à mi-mandat.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropole et vous, la suite avec notre invité Franck Biasotto, adjoint au maire de Toulouse, maire de quartier, président de la commission Habitat de Toulouse Métropole. Avant d'entrer dans le détail du contrat de ville 2015-2020 de Toulouse Métropole et de ses actions, je voudrais qu'on précise d'abord ce concept de politique de la ville, puisque c'est dans son cadre que le contrat de ville s'inscrit. Qu'est-ce que recouvre cette expression politique de la ville? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? De quoi s'agit-il?
Pour faire court, tout simplement, la politique de ville, c'est faire ville. Comment conçoit la ville de demain, sans oublier l'humain? C'est-à-dire, nous maîtrisons, nous savons l'urbain, hein, c'est ce qu'on appelle l'Agence nationale du renouvellement urbain. On travaille bien sûr de pair avec elle, à Paris, et en même temps, c'est au-delà du bâti, comment on intègre l'humain dans ces nouveaux quartiers. Alors, je vais faire peut-être un jeu de mots, mais c'est pour donner véritablement la signification et l'axe sur lequel nous nous inscrivons. À la fois, c'est le renouvellement urbain, mais il ne faut pas oublier le renouvellement humain, la place de l'humain dans la ville.
Alors, le contrat de ville, qu'est-ce que c'est dans cette politique de la ville? Est-ce que c'est, d'une certaine manière, la même chose ou plutôt la déclinaison en action des grands axes de la politique de la ville?
C'est ça, c'est tout à fait l'outil. C'est l'outil de la politique de la ville, le contrat de ville, qui doit porter une ambition forte. En tout cas, c'est ce que nous menons maintenant depuis quelques années. Une ambition forte qui décline des objectifs et des diverses actions qui doivent être menées, avec bien sûr l'ensemble des partenaires, on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble. On contractualise le contrat de ville, c'est la métropole, les différents acteurs, l'État bien sûr, et les quatre communes, dont Toulouse bien évidemment, sans oublier Colomiers, Blagnac et bien sûr la ville de Cugnot. Une vingtaine de partenaires globalement.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, outre Toulouse, il y a 3 communes qui sont concernées par le contrat de ville, pas les 37 de la métropole.
Absolument. C'est une distinction peut-être qu'il faut s'attarder quelques instants. Effectivement, que ça concerne les quartiers dits prioritaires, les quartiers les plus défavorisés, où se concentre peut-être un peu plus de pauvreté, si vous me permettez. Et donc, effectivement, il y a Toulouse et 3 autres communes de la métropole. Toute la métropole n'est pas concernée par les quartiers prioritaires et ce fameux renouvellement urbain.
Puisque vous employez ce terme de quartier prioritaire, il va falloir qu'on définisse ce qu'est un quartier prioritaire. À quel moment un quartier devient-il prioritaire? Quel est le critère qui fait qu'il devient prioritaire?
Le critère essentiel, c'est l'État, bien sûr, qui l'a choisi, qui l'a mené. Il regarde tout simplement ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire ce que vous déclarez sur votre feuille d'impôt tous les ans. Et au regard du montant que vous déclarez, on concentre, il compile. Et à partir du moment où vous ne déclarez pas plus de 11 900 euros par an, on regarde et on cumule le nombre de personnes qui déclarent la même chose. Et à partir de là, on se dit, là, il y a un indicateur fort. Il y a peut-être plus de pauvreté, des gens moins favorisés, il faut s'attarder et ils définissent le périmètre. Ils considèrent que c'est un quartier dit prioritaire de la ville.
Quels sont les grands axes, les objectifs principaux du contrat de ville en cours, hein? Je dis bien du contrat de ville en cours.
Le contrat de ville en cours, il a été signé en juillet 2015. Il est très clair, vous avez 5 grands objectifs qui se déclinent de la façon suivante avec des priorités plutôt transversales parce que vous comprenez bien que lorsque nous faisons la politique de la ville, le contrat de ville s'implique l'ensemble des élus sur de nombreuses thématiques. Alors tout d'abord, il s'agit de réduire les écarts. C'est ce qu'on disait il y a un instant, surtout en matière d'habitat, en matière de l'emploi, en matière d'éducation, de formation et pour être tout à fait complet, de la santé également. Il faut rééquilibrer l'offre de logement. Nous y reviendrons peut-être entre le reste de la métropole, une meilleure répartition et ces fameux quartiers dits prioritaires. Ensuite, il s'agit de placer l'entreprise. On parle d'emploi, je crois que c'est l'enjeu majeur sur ce dernier tiers pour ce qui me concerne de mandat et de mobiliser bien sûr tous les acteurs économiques de la place pour favoriser l'accès des habitants à l'emploi et aux revenus dits du travail. Et enfin, il s'agit d'assurer un meilleur accès à toutes les ressources métropolitaines et de l'agglomération et restaurer, comme dirait monsieur le maire, souvent la conviviencia toulousaine, aussi dans ces quartiers dits prioritaires. Alors, des orientations, hein, ces grands objectifs, bien évidemment, ça fait appel à améliorer le cadre de vie. Nécessaire, apaiser les quartiers, revenir, je dirais, à une situation à la normale, souvent des quartiers dits stigmatisés. Il faut favoriser la création de richesses, l'emploi, la richesse et ramener des entreprises, renforcer la cohésion sociale. Ça, c'est important, c'est-à-dire que ces quartiers parlent aux autres quartiers, du désenclavement. Voilà, qu'on se parle enfin, et enfin, des priorités plus transversales peut-être, prendre en compte la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, l'avenir de ces quartiers. Donc la diversité, il faut y travailler. Lutter contre toutes les formes de discrimination, ça c'est important. Et renforcer l'égalité homme-femme, c'est très à la mode. Je dis à la mode parce que, enfin, on s'en préoccupe. Le rôle de la femme dans les quartiers est tout aussi important, bien sûr. Et vous le verrez, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Les femmes, aujourd'hui, jouent un rôle primordial. C'est grâce aux femmes que ces quartiers bougent aujourd'hui.
Elles s'investissent, elles s'impliquent, elles parlent. On leur donne la parole et du coup, elles l'apprennent.
Bien sûr, et par le biais des associations, il n'y a pas une association sans à la tête une femme. Et une femme qui a envie de faire bouger son quartier, qui aime son quartier, bien sûr. Et promouvoir, enfin, pour être tout à fait complet dans ce périmètre, la laïcité aussi, bien sûr, sans l'oublier.
Quartier prioritaire, 12 à Toulouse. 3 dans des communes de la périphérie toulousaine. Est-ce qu'on peut les citer?
Les 12 ou les 3?
Oh, les 12 et les 3.
Bon, bah écoutez, ils sont assez nombreux. Vous avez effectivement le quartier des Arènes. Hein, tout le monde côtoie le quartier des Arènes. Vous avez Bréguet l'Écrivain. Vous avez Bourbaki, La Sépierre, Beauregard. Vous avez Empalot. Vous avez Baradel. Vous avez Anjaca. Alors là, nous sommes déjà sur Colomiers. Vous avez bien sûr le Grand Mirail, que je connais bien. Bagatelle, Farouette, Papus, Tabar, Bourdelongue. Vous avez Bellefontaine-Milan. Et vous avez Rennery, Mirail Université. Vous avez le quartier de la Gloire, qui est en pleine rénovation actuellement. Les Isards, La Vache. Je dirais plutôt les 3 cocus, La Vache, parce que la cité des Isards vient d'être démolie dans le cadre du renouvellement urbain. Vous avez le quartier de Négrenaise, les Pradettes, Soupetard, sans oublier d'autres quartiers columérins, le Val d'Aran, les Fenassiers, Bel Air Poitou, et enfin, de l'autre côté, ou pas très loin, Cugnot, le Vivier Masson. Donc vous voyez, ça fait 22 quartiers au total, c'est pas rien, il y a un gros travail à faire, surtout en tout cas une cohérence d'approche de la politique de la ville.
Il y a Blagnac, dans les quartiers prioritaires, ce qui peut surprendre comme ça, parce que beaucoup de gens doivent s'imaginer que Blagnac est une ville très riche, ce qui est le cas d'ailleurs, et pourtant.
Absolument, c'est ce qui fait aussi la diversité, je crois, de la société. Effectivement, même dans les communes les plus favorisées, on a souvent des problèmes sociaux, on a souvent des problèmes d'emploi. Et là, effectivement, il y a un quartier sur Blagnac qui est en peine. Et donc, je crois que nous devons de mobiliser toutes les forces vives pour pouvoir tirer vers le haut, comme on dit, le quartier qui est plus défavorisé.
Si on détaille un peu le contenu, alors les 3 piliers du contrat de ville, hein, je l'ai rappelé, le cadre de ville, la cohésion sociale, le développement économique et l'emploi, est-ce qu'on peut parler d'actions vraiment précises, savoir comment on améliore le cadre de vie, par exemple?
Alors, améliorer le cadre de vie, je vois 2 axes. Tout d'abord, c'est l'habitat. Construire différemment, construire autrement, moins cher, et surtout partons du besoin, de l'usage. Donc interrogez effectivement les habitants, puisque c'est eux qui vivent au quotidien. Alors vous le savez, hein, puisque les quartiers dits prioritaires, notamment le Grand Mirail, si je m'en tiens qu'à celui-ci sans être égoïste, vous avez une stigmatisation, les grandes barres d'immeubles avec les paraboles aux fenêtres. Effectivement, ce sont des constructions qui ne répondent plus aux besoins d'aujourd'hui, et donc il s'agit à la fois soit de rénover, quand l'immeuble permet, c'est-à-dire qu'il est encore en bon état, sinon il ne faut pas hésiter. Je crois qu'il faut démolir, reconstruire différemment, moins haut, et puis de manière au goût du jour, avec les conditions d'habitabilité qui répondent aujourd'hui à nos exigences, bien évidemment. Ça, c'est un premier axe, l'amélioration de l'habitat. Et agir concrètement, agir au quotidien, c'est quoi? C'est valoriser effectivement l'espace public. Ce sont des quartiers qui ont des espaces, les espaces verts, notamment du Grand Mirail. Vous n'en avez pas d'autres. Vous n'en avez pas d'autres ailleurs en métropole. Donc il s'agit de valoriser les atouts, d'améliorer l'existant et de faire en sorte de donner une nouvelle image, une image d'attractivité de ces quartiers qui sont trop souvent stigmatisés, les faits divers notamment pour ne tenir qu'eux.
Après, agir dans le sens d'une plus grande cohésion sociale, on peut penser déjà à l'éducation, sans doute, qu'il y a des choses à faire en matière d'éducation, et puis la vie quotidienne du quartier.
Bien sûr. Alors, vous parlez en matière d'éducation, l'État a donné quelques priorités, le dédoublement des classes de CP, de CE1, notamment pour la rentrée prochaine. Nous, on agit sur la pratique du sport. C'est-à-dire, on essaye d'être tout à fait avant-gardiste et en tout cas renforcer aujourd'hui les pôles attractifs. On est plutôt bien doté en équipement sportif, mais par contre, il s'agit d'accompagner, parce qu'à travers le sport, on véhicule des valeurs. Donc c'est important, il faut soutenir les associations qui sont bien sûr que des bénévoles. Et nous, nous devons, nous collectivités, de les accompagner, de les aider et d'organiser peut-être un peu mieux la pratique du sport. Et je citerai notamment Sofiane Oumia, qui est un champion olympique, qui habite avec ses parents depuis 25 ans dans le quartier de la Reinerie. Donc il faut, je crois, par ce biais, valoriser effectivement, donner l'exemple, faire en sorte que ça soit un moteur d'une appropriation différente, bien sûr, dans les quartiers.
Et puis évidemment, l'emploi. Alors ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée sur laquelle agir, parce que les entreprises, il faut leur donner envie de s'installer dans certains quartiers, mais c'est quand même elles qui décident.
Oui, vous avez raison. Je dirais même, pour faire une transition par rapport au thème précédent, d'abord, il faut s'attacher au décrochage scolaire. Il faut mettre les bons outils, il faut mettre les acteurs qui sont en veille là-dessus, et notamment les associations jouent un rôle primordial. Au-delà de ça, l'emploi, oui, il faut absolument favoriser le retour de l'entreprise au cœur de ces quartiers. Et nous devons être moteurs, permettre effectivement, on parle beaucoup de start-up, on parle beaucoup d'entreprises à la pointe, mais il faut les inciter à venir également s'installer dans ces quartiers qui sont plutôt bien distribués en transport en commun, et notamment le métro. Donc on a déjà, je dirais, les éléments qui peuvent permettre de meilleures installations. On parle de l'école du numérique, on peut parler effectivement de technologie. Nous avons des viviers. Nous avons des gens, effectivement, qui ont des études. Et souvent, le barrage, c'est ce qu'ils habitent dans le 3100. Donc, il faut passer au-delà de cette image. Et nous avons des gens, hein, moi, je les rencontre en mairie de quartier, qui recherchent de l'emploi. Il faut les épauler. Il faut les épauler à la fois au sein de notre collectivité, quand c'est pas possible, compte tenu de nos contraintes aussi budgétaires. Il faut les aider vers le privé et favoriser l'entreprise en cœur de quartier.
Puisque vous parlez de ces gens que vous rencontrez dans les quartiers, ces citoyens des quartiers prioritaires, est-ce que eux ou des associations dans lesquelles ils sont impliqués ont été concernés par l'élaboration du contrat de ville, est-ce qu'ils le sont encore aujourd'hui dans son suivi, dans ses réalisations, dans ses réajustements éventuellement?
Alors ce que vous dites était fondamental et moi j'y attache une importance toute particulière. Le contrat de ville de juillet 2015 effectivement a créé un nouvel outil, le conseil citoyen. Le conseil citoyen, c'est le pivot aujourd'hui du contrat de ville. Contrat de ville, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? C'est une contractualisation entre les collectivités et les habitants. Et là, c'est le conseil citoyen qui joue un rôle majeur. Majeur, pourquoi? Parce que c'est une instance qui est constituée, pour faire vite, des habitants, des associations, ce qu'on appelle des leaders d'opinion de quartier, mais également des gens tirés au sort dans les listes électorales qui constituent effectivement le conseil citoyen. Se réunissent, ils sont totalement autonomes, ils ont même effectivement délégué par l'État, ils ont un petit budget de fonctionnement, donc ils s'organisent, ils sont autonomes et souverains. C'est-à-dire que moi, quand on m'invite dans ces instances, j'y viens bien volontiers pour voir l'évolution de leurs travaux. Mais c'est eux qui choisissent leurs priorités et c'est eux qui choisissent effectivement leur mode de fonctionnement. Et ça, c'est capital, c'est nouveau, c'est primordial. Et enfin, un contrat de ville, une politique de la ville qui donne la parole aux habitants. On fait avec et on fait pas contre ou à côté. On fait ensemble, et ça c'est fondamental, c'est eux qui connaissent leur quartier, c'est eux qui vivront demain dans leur quartier, et ils aiment fondamentalement leur quartier, donc ils portent des projets que nous devons, nous collectivités, intégrer de manière prioritaire dans ce que l'on appelle les orientations, dans le contrat de ville, dans le schéma directeur que nous souhaitons développer, et ça c'est, je crois, un acquis qu'il faut porter, qu'il faut faire vivre, et c'est fondamental pour la réussite des rénovations des quartiers.
Vous ne cherchez pas à orienter, à influencer les décisions, les discussions réunion de ces conseils citoyens, ce sont eux au contraire qui vous donnent des orientations dont vous devez tenir compte après.
De manière prioritaire. Absolument, donc ils sont moteurs de la rénovation de leur quartier et je trouve que c'est bien parce que je suis convaincu qu'un projet partagé est un projet accepté et qui aboutira. S'il est imposé, il sera rejeté.
C'est important de préciser. Quelques chiffres peut-être, hein, les montants investis dans le contrat de ville, les montants engagés bon, depuis le début, là, depuis 2015, mais peut-être sur l'ensemble du mandat. Est-ce qu'on sait dans quoi ils sont engagés prioritairement?
Oui, alors on a les chiffres. Alors pardonnez-moi, j'aime pas la vulgarisation, mais je vais vous donner quelques grandeurs. Si je m'en tiens qu'à 2016-2017, la ville de Toulouse apportait elle-même un peu plus de 12 millions d'euros sur les deux dernières années, et sur la métropole comptait environ à peu près entre 28 et 30 millions d'euros. Ce qui est important, c'est que bien souvent on se dit « Oh là, beaucoup de travaux au centre-ville, etc. » Oui, mais il faut savoir que les budgets consacrés les plus importants, c'est sur les quartiers prioritaires dits politiques de la ville. Hein, c'est un peu plus de 180 millions d'euros sur la mandature, c'est assez conséquent. Bien évidemment, toute orientation confondue, c'est-à-dire que ça vienne de l'État, de la ville de Toulouse ou de la métropole, mais tout confondu, ça fait un budget deux fois plus important que le centre-ville. Souvent, les gens qui ne connaissent pas bien les quartiers, on a l'impression que c'est le contraire, que tout se concentre en centre-ville. Non, les enjeux sont importants, les sommes sont considérables, mais on y voit véritablement aujourd'hui une évolution, et moi je suis très heureux de pouvoir porter tous ces travaux, parce qu'on voit enfin des quartiers qui bougent, qui sont transformés, et comme je vous le disais, transformés avec l'accord des habitants, donc c'est que mieux.
On parle souvent de l'évolution de la démographie de la métropole dans les années qui viennent, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Comment c'est pris en compte dans les réflexions, les décisions, les actions du contrat de ville? Ça l'est forcément.
Oui, et alors là je vais vous parler plus avec ma casquette de l'habitat, c'est-à-dire que je me rends compte que ce sont des quartiers donc aujourd'hui prioritaires et qui offrent en même temps les loyers les plus bas, si je parle des logements sociaux, les loyers les plus bas dans ces quartiers. C'est-à-dire que ces quartiers sont terre d'accueil pour les personnes qui arrivent de l'extérieur, ce que j'appelle les néo-toulousains, les néo-métropolitains. Donc il faut faire autrement. Parce qu'il y a une concentration aujourd'hui dans ces quartiers et si l'on veut changer l'image, si on veut réorienter, il faut nécessairement construire différemment sur la commune de Toulouse et sur la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire une meilleure répartition des logements les plus bas prix, les logements sociaux les moins chers, et il faut faire une meilleure répartition. Ça permettra de travailler sur la mixité sociale. Là, cette fois-ci, au lieu que ça devienne qu'un seul concept, que ça devienne une réalité au quotidien. Donc il faut construire plus des logements pouvant accueillir des familles, donc des logements grands, à bas coût, à bas prix, dans l'ensemble de la métropole. C'est ce qu'on appelle la politique de peuplement. Et il est aberrant aujourd'hui de se dire on va continuer à accueillir des gens qui sont peut-être déjà en difficulté, dans des quartiers qui sont difficiles à vivre aujourd'hui, puisque les fondamentaux n'y sont pas encore, complètement en tout cas, pour permettre effectivement, et demain, et je l'espère en tout cas, nous y travaillons dans ce sens, pour accueillir de nouvelles populations. Là, je parle des jeunes qui voudraient investir, non plus en tant que locataires, mais devenir même propriétaires pour la première fois dans des quartiers où leurs parents vivent peut-être déjà. Et donc ça, c'est notre enjeu, mixité, donc une vraie politique de peuplement, construire différemment et une meilleure répartition sur l'ensemble de la métropole.
Il y a eu récemment un événement qui s'appelle les Assises métropolitaines, c'était le 19 décembre dernier. Le contrat de ville y a été évoqué, je suppose, commenté, discuté, évalué. Quel premier bilan on peut en tirer aujourd'hui, à fin 2017? Qu'est-ce qui a été réalisé? Quelles sont les réussites? Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des retouches qui ont été faites? Et qu'est-ce qui reste à faire?
Bah écoutez, alors tout d'abord, ces assises, je dirais, c'est la grande messe. On se fait un petit peu plaisir, mais au-delà du plaisir de partager, c'est bien sûr se donner de nouvelles orientations ou les ajustements dans ce qu'on aurait pu prévoir. Alors tout d'abord, le bilan, c'est un consensus. Le bilan, et c'est assez intéressant.
Vous dites consensus, c'est consensus toute tendance politique confondue parmi les élus de la métropole.
Absolument, et je dirais même au-delà même de la population, puisque c'est construire ensemble, et je crois que là, véritablement, tout le monde s'accorde à dire que c'est une priorité, et les axes qui ont été choisis répondent bel et bien aux besoins des habitants, et bien évidemment, à une requalification de l'espace public et de l'habitat en général. Donc là-dessus, consensus qui permet, ce qui est important, de consolider les bases et de se dire, voilà, la maison commune est bel et bien aujourd'hui avec de bonnes fondations, on peut poursuivre. Alors la poursuite, je crois, un axe fort hein, que nous avons entendu et que M. le maire président a présenté, c'est bien sûr l'emploi, la formation, hein, donc l'humain, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Il faut mettre le paquet, si vous me permettez de parler un petit peu trivialement. C'est une préoccupation première des jeunes aujourd'hui. Il y a des taux de chômage importants. Il faut maintenant s'attaquer. Quand les outils sont en place, qu'on a fait retour des entreprises dans les quartiers, nous y sommes, hein, au balbutiement, mais elles arrivent. Il faut maintenant contractualiser avec elles les clauses d'insertion. des chantiers d'insertion. Il faut les favoriser. Les gens sont impliqués également, bien évidemment, au cœur de leur quartier. Et puis ensuite, véritablement, des offres réelles et sérieuses d'emploi. Et je dirais les bailleurs de la place qui sont présents déjà, je les incite à embaucher, de proposer des contrats de qualification, d'apprentissage, des contrats d'alternance, des CDD, des contrats des emplois saisonniers, de remplacement et bien sûr du CDI pour continuer, pérenniser. Et enfin, parce que comme je vous le disais, je rencontre tous les jours des talents, des gens qui ont des formations solides et des gens tout à fait valables. Et il ne faut pas négliger effectivement l'apport que nous avons in situ. Donc il faut absolument donner un coup d'accélérateur maintenant sur l'apprentissage, la formation et l'emploi.
Le contrat actuel court jusqu'en 2020, mais je suppose que vous regardez déjà bien au-delà. Les actions prochaines, vous vous projetez jusqu'à quel horizon aujourd'hui et à quoi pensez-vous ?
Bah écoutez, en tant qu'élu, on doit porter deux choses. On doit, en tant que maire de quartier modestement et ou conseiller communautaire, on doit répondre à l'immédiateté. Aux besoins, tout de suite, maintenant, les demandes urgentes de nos habitants, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier, il y a un prisme différent. Il faut aussi prévoir et anticiper. C'est notre devoir. Et donc, il faut regarder plus loin. Je dirais, avec l'Agence nationale du renouvellement urbain, nous sommes déjà sur des échéances 2025 et voire 2035. Vous allez me dire, 2035, c'est loin. Non, c'est demain. C'est demain, donc il faut anticiper. Qu'allons-nous faire ? Comment allons-nous rendre ces quartiers plus attractifs ? Comment faire le nécessaire pour que tous les éléments soient regroupés pour une belle réussite et pour que ces quartiers deviennent, et j'aime pas dire quartier, même si je l'ai beaucoup employé, je veux que ça devienne un faubourg comme tous les autres faubourgs toulousains. Et donc, quels sont les bons ingrédients que l'on doit porter auprès de la population ? Quels sont les enjeux ? Alors oui, 2025, ça sera le parachèvement du prochain plan de l'Agence nationale du renouvellement urbain, le plan numéro 2, pour effectivement finir en palo. Le quartier d'Empalo, c'est un quartier qui va sortir du contrat de ville, vous le voyez. Donc tous les ingrédients y sont maintenant. On sent que les choses changent, bougent. Et Empalo sera raccroché au centre-ville en 2025. Donc vous voyez les effets d'une politique partagée, contractualisée, en tout cas construite ensemble, fonctionne. Donc il faut continuer en ce sens. Et en 2035, on aura, j'espère, sorti d'autres quartiers de l'égide de la politique de la ville.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à vous, Franck Biasotto, pour votre venue et votre participation à ce numéro de Métropole et vous. J'espère que nous aurons réussi au cours de celui-ci à préciser ce concept de politique de la ville et à donner le plus d'informations et d'indications possibles sur les actions du contrat de ville de Toulouse Métropole. C'est un document très important que chaque citoyen devrait connaître puisqu'il concerne notre vie, notre environnement quotidien, mais aussi le devenir du lien social, des relations sociales au sens large dans la métropole toulousaine. De gros moyens sont mis en place et investis pour cela. Alors autant savoir à quoi ils sont utilisés, je vous invite donc à consulter le contrat de ville 2015-2020 dans le détail en vous connectant au site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie mission puis à la rubrique politique de la ville. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.